Vous êtes-vous déjà amusé au jeu qui consiste à compléter une phrase comme cela se fait fréquemment sur les réseaux sociaux? Pour ma part, lorsque cette phrase était « on sait qu'on est vieux quand », j'ai longtemps poursuivi par « quand on arrête de s'intéresser aux nouveautés dans la musique ». Jusqu'à ce que je me rende compte, mes enfants grandissant, que j'avais, faute d'intérêt, raté toute une génération d'artistes. Une génération qui a fait de la France le deuxième pays du rap après les États-Unis, car les Booba, PNL, Soprano, Nekfeu, Damso, Niska, Jules, Big Flo et Oli, L'Homme Pâle, Gizmo et tant d'autres représentent de multiples courants d'un mouvement qui a fortement secoué le paysage ces dernières années, au point de dominer maintenant la filière musicale, accaparant encore en 2017 une partie des ventes et des écoutes d'albums. Souvent en dehors des médias traditionnels, ils sont parmi les rares artistes à enchaîner disques de platine et de diamants, à afficher des centaines de millions de vues sur les plateformes vidéo, à être suivis par des communautés de centaines de milliers de fans sur les réseaux. À coups de punchlines, de rimes, d'allitérations, de virelangues, d'onomatopées, de références littéraires et mythologiques ou captées dans la rue, passer à l'autotune ou au vocodeur et poser sur des nappes aériennes et des basses qui font grésiller les smartphones, ils sont le présent de la musique, séduisent les jeunes générations, mais également, et de plus en plus, le plus grand nombre. Et si ces rappeurs étaient la variété d'aujourd'hui? Pourquoi plaisent-ils tant? En quoi sont-ils différents de ceux qui ont ouvert la voie, les MC Solar, NTM, IAM, Doc Gynéco? C'est ce dont nous allons débattre pendant une heure.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et pour en débattre, sont présents avec nous en studio Valérie Atlan, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes productrice de rap et vous aviez organisé la tournée L'âge d'or du rap français. Vous allez nous en parler tout à l'heure peut-être. Oui. Héloïse Bouton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante et vous êtes fondatrice d'un site qui s'appelle madamerap.com, site dédié aux femmes dans le hip-hop.
Tout à fait.
Et enfin, Yérim Sarr, bonjour.
Salut.
Donc vous êtes journaliste culture, spécialiste de cinéma et de rap, et vous collaborez avec différents médias, Vice, Première, Bouska, et même avec Move, la radio du service public.
Ouais, qui a beaucoup moins d'argent que France Inter. C'est vrai. Ce que je me dis quand je vois le studio.
Et nous entendrons un petit peu plus tard Clémence Brenon, qui est doctorante en linguistique à Paris 4. Alors une petite question personnelle à chacun d'entre vous. On va commencer par vous, Valérie. Comment s'est passée la rencontre avec le rap dans votre vie?
Alors juste pour rectifier un tout petit peu la présentation, je suis journaliste au départ, hein, rédactrice en chef de rap pendant une dizaine d'années, donc sur tous les premiers gros magazines de rap papier. Et ensuite j'ai évolué vers la production d'artistes et la production de tournées. La rencontre avec le rap, elle s'est passée à mes 14 ans, à l'âge de 14 ans. Ça fait un bon paquet d'années. Et elle s'est passée tout simplement en allant au Trocadéro. J'habitais pas loin du Trocadéro, effectivement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes pour connaître le rap. Et c'est un endroit où c'était une plaque tournante, tout comme Stalingrad. Bizarrement, c'était deux opposés, quartier riche et quartier pauvre. Mais c'était une des premières plaques tournantes où on découvrait la culture hip-hop au Trocadéro. Donc c'était fin des années 80. Voilà.
Il y avait pas mal de danseurs, notamment.
Il y avait des danseurs, exactement, avec des gros ghetto blasters. Il y avait toute cette culture-là qui était là. Et puis, évidemment, grâce à Sydney, à Chipé, à Chopé, donc en 84, sur TF1. Je me suis pris vraiment cette culture en pleine figure. J'avais 12 ans. Et voilà, on découvrait une culture qui venait des États-Unis, avec des danseurs, avec des looks atypique, en tout cas pour nous en France. Et c'est vraiment comme ça que s'est passée ma rencontre. Donc je pense que c'était du coup en 84 et puis après par la suite, deux ans après, au Trocadéro.
Héloïse, vous, votre rencontre avec le rap?
Je dirais que c'était au collège, à travers une espèce de quête de rôle modèle féministe, où j'écoutais beaucoup de punk rock et de Riot Girl. Et j'ai découvert des rappeuses américaines qui pour moi étaient à l'époque, je me disais pas féministe, mais étaient super féministes, enfin dégageaient quelque chose d'une grande liberté pour moi, notamment des artistes comme Queen Latifah, MC Light, Salt and Pepa, enfin toute cette génération là qui parlait de thématiques que j'avais jamais entendu évoquer avant dans aucune musique, comme du harcèlement de rue, comme de la contraception, comme des violences sexuelles, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter, bizarrement, même si on dit que c'est un milieu très masculin, je suis allée arriver au rap par des rappeuses, par des femmes.
C'est bien, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Et vous, Yérim, comment s'est faite la rencontre avec le rap?
C'était très banal. C'était t'es au moment où t'es petit et tu choisis un peu ta musique de prédilection. Bah, c'est tombé sur le rap, mais sinon c'était. J'ai découvert un peu de loin, enfin en écoutant des radios et voilà. Après, c'est à la limite le seul truc un peu marrant, c'est que en fait, sans le savoir, j'avais écouté une fin de morceau du Ministère Hammer, mais je savais pas que c'était ça. En fait, j'étais juste pote avec quelqu'un de plus vieux que moi et j'avais entendu en fait nos mamans dire ouais. À la fin, il y a beaucoup trop de gros mots et du coup, j'avais foncé dans sa chambre pour dire ouais, je veux le truc avec des gros mots.
Bah oui, donc, forcément. Voilà,
c'était mon premier rapport avec le rap.
Pour la première fois en France, Lady Soul, Aretha Franklin.
Vous avez sans doute reconnu l'exceptionnel, l'unique Aretha Franklin, décédée hier à 76 ans. La Voix de la Soul revisitait le classique des Stones lors de son premier concert en France à l'Olympia en 1968. Aretha Franklin, dont certains morceaux avaient été samplés, utilisés par des rappeurs dans les années 90, lorsque ces artistes piochaient allègrement dans le catalogue de la soul, du funk, voire du jazz. Eh bien, ce midi, nous débattons du rap d'aujourd'hui qui a bien changé depuis son apparition en France en 1984. Changé, sauf peut-être dans la perception qu'on a encore une partie des médias.
Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches enfin sur TF1.
Alors Elsan, contrairement aux apparences, vous êtes rappeur. Ouais. Je dis contrairement aux apparences parce que vous êtes blanc, pas très musclé, vous ne voulez pas niquer
gentil, hein.
La France. Et vous savez conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Et c'est très bien, bravo.
Ce que j'aime, c'est quand ils disent « fuck ». Ils disent pas fuck, tu sais, comme l'animal, fuck. Le fuck, oui. Fuck you! I won't do what you tell me!
Après, je pense que c'est vraiment une différence de culture, quoi. Parce que moi, les grands rappeurs qui m'ont fait, j'ai bossé avec eux, on se comprend. Quand on parle de musique, on se comprend. Vous, ça se voit que c'est pas trop votre domaine,
quoi. C'est pour ça, avec humilité, je vous dis que bonne chance.
C'était pas très simple, c'était plus une genre de battle, mais donc je pense ça bien.
Valtre, bonsoir. Vous n'êtes pas noir. Vous ne passez pas vos journées en salle de muscu et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait.
Tous les jours, il y a des nouveaux tweets de gens outrés de l'interview Ardisson. J'ai grave la haine. Je déteste la télé. Ça pue du cul.
Et on dit que le rap, c'est la nouvelle variété. Vous êtes d'accord avec ça?
Bah, en termes d'accessibilité au grand public, oui.
De vente aussi?
Puis de vente aussi, ouais, voilà, un peu. Après, la nouvelle variété, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ouais, ouais, il y a tout style de rap. Le rap s'est diversifié et voyage beaucoup mieux maintenant. Donc, la nouvelle musique populaire, plus que la nouvelle variété, mais oui.
Faites du bruit, on fout la merde, cher Ardisson!
Alors, mesdames, messieurs, comment vous vivez cette contradiction qu'on entend bien avec aujourd'hui le rap qui est devenu sans doute la musique la plus écoutée, celle qui se vend le mieux, et puis on voit quand même que la perception médiatique, et on l'a vu encore récemment avec les affrontements entre Booba et Kaaris à l'aéroport d'Orly, soit aussi sulfureuse. Valérie Attenant.
En réalité, depuis le départ, c'est un combat. On a l'impression que c'est un combat pour pas imposer, mais faire comprendre que cette culture qu'on défend tous depuis un bon bout de temps a toujours du mal. C'était le cas il y a 15 ans, c'était le cas il y a 10 ans. C'est encore le cas. Elle a toujours du mal à être perçue comme une culture à part entière. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui parlent. Il y a des vues, il y a des chiffres de vente, il y a des concerts qui se remplissent, il y a des salles, etc. Plus personne ne peut nier l'impact que cette musique a sur toute la jeunesse, d'où qu'elle vienne, de tous les quartiers, de tous les environnements. Il suffit plus d'être dans un quartier, etc. Mais c'est quelque chose... Enfin, moi, à mon niveau, je pense qu'on va tous être d'accord autour de cette table. Moi, on a toujours vécu ce combat. Faut toujours. Je parlais hier avec un artiste, un rappeur dans mon studio, qui comprenait pas que je puisse être étonnée aujourd'hui d'entendre du rap. Alors, je vais pas dire n'importe quelle radio, mais un grand nombre de radios diffusent du rap. Aujourd'hui, on est sur France Inter.
Y compris sur France Inter.
Y compris France Inter. À une époque, c'était tellement rare. Il fallait qu'on aille aux États-Unis. Il fallait qu'on enregistre des mixtapes. Enfin, c'est incroyable quand même le chemin qui a été fait malgré tout. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même du chemin qui a été fait aujourd'hui. Mais donc le combat, il a toujours lieu parce que même si c'est diffusé, effectivement, il y a toujours des a priori. Effectivement, quand il y a un fait divers qui se passe comme récemment, on va reporter ça sur « Ah, c'est des rappeurs, c'est le rap », alors que c'est tout simplement des humains, ça aurait pu se passer n'importe où. C'est très embêtant qu'on colle ça au rap. Mais pour moi, c'est pas étonnant. On se bat et on continuera tous à se battre, tous autant qu'on est, dans nos différents métiers, pour qu'un jour, il n'y ait plus du tout de barrière et qu'on interviewe un rappeur dans une émission généraliste, comme on interviewe quelqu'un de la variété, sans barrière, sans dire « Ah, mais tu viens pas d'un quartier, ah, mais tu dis paillot ». Le chemin est encore un petit peu long, je pense, mais on va y arriver.
Héloïse Mouton, vous, votre perception dessus?
Oui, je suis assez d'accord. Je trouve que ce traitement fait par les médias grand public est assez insupportable. Pour moi, c'est vraiment du mépris de classe de base et une condescendance immense pour cette culture. Ce sont des gens qui la méprisent, qui l'ignorent. Quand on entend des Thierry Ardisson, des Yann Moix, pour moi, c'est vraiment l'incarnation d'une culture dominante qui méprise une culture plus populaire. C'est classiste, c'est aussi raciste. On entend des réflexions dans les extraits que vous avez sélectionnés qui sont assez racistes. Et vous parliez de l'affaire Booba Kaaris. En même temps, il y avait l'affaire Benalla qui défrayait la chronique. Pour moi, il y a aussi deux poids, deux mesures, quoi. Où sont les vrais délinquants? Et on aime bien faire porter au rap ce chapeau des Kairas dangereuses de la grosse banlieue non identifiée, mais qui serait très, très anxiogène et qui serait porteuse de plein de discours violents, sexistes, homophobes, mettrait en avant une culture assez dégradante, assez matérialiste, etc. Mais c'est pas que ça, le rap. C'est l'image.
C'est pas que ça, mais c'est aussi ça.
C'est ça, mais c'est aussi ce que les médias grand public mettent en avant depuis 20 ans. Il y a plein de raps différents et tous les autres raps ne sont jamais mis en avant, et je trouve ça très dommage.
Yérim Sarr, est-ce que vous avez l'impression que, quelque part, en même temps, comme le disait Héloïse, cette condescendance qu'il peut y avoir à l'égard du rap ne profite pas également au rap? À ceux qui en font, en tout cas.
Dans le sens, pour l'image de culture un peu rebelle qui se construit à part, non, parce qu'en fait, tu fais toujours ça par défaut, mais concrètement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Si tu te reportes à l'affaire récente de l'aéroport, même en tant que journaliste, en fait, on t'appelle une fois tous les 5 ans quand il y a un fait divers assez glauque comme ça. Bon, si t'as un peu de dignité, tu réponds non. Ce qui fait qu'après, ils se retrouvent avec un défilé de tâcherons incompétents dans tous les gros médias, avec des gens qui vont en moins d'une minute dire un maximum de conneries et d'inexactitudes. Mais après, je sais pas. Enfin, c'est en fait le truc, c'est que personne est là pour défendre les rappeurs qui font spécialement les cons. Mais le problème, c'est quand tu parles jamais d'une musique et d'une culture,
mais qu'on en parle juste
qu'on
pour
en parle
ces événements-là,
pour ce genre d'événements-là, ouais. Bah forcément, ça rabaisse à peu près tout le monde. Et après, je sais pas quand l'affaire. Il faudrait s'imaginer un pays qui parlerait jamais de cinéma et qui se met à en parler uniquement pour l'affaire Weinstein. En fait, c'est exactement comme ça que la France traite le rap.
Alors, Valérie Atlan. On a compris tout à l'heure, vous nous parliez de votre parcours, que vous avez suivi l'évolution de cette scène rap depuis maintenant une trentaine d'années. Comment expliquer, selon vous, qu'est-ce qui a changé pour que le rap, aujourd'hui, soit le premier courant musical en France ?
Ce qui a changé pour que ce soit le premier courant ? Alors, je pense que le rap, c'est un reflet de la jeunesse. Souvent on me dit mais c'est bizarre, ça t'interpelle pas que dans les paroles d'aujourd'hui il n'y ait plus autant de sens que, on va dire, un certain rap des années 90, que d'ailleurs j'ai mis en avant dans une tournée, mais pas du tout pour faire pour dire c'était mieux avant, simplement pour rappeler les classiques, parce que je trouve que c'est aussi bien tout ce qui se passe aujourd'hui dans le rap. On me dit il n'y a plus de texte fort, c'est simplement des bangers, ça turn up, ça bounce, etc., etc.
Oh là, il faut traduire, là, il y a plein
pardon.
De mots.
on va dire que difficile de traduire ça turn up, mais on va dire que voilà, c'est fait pour bouger, pour s'ambiancer. Parfois, il y a un certain public qui ne retrouve pas le sens qu'il retrouvait dans un certain rap. Moi, je dis simplement que c'est le reflet de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les rappeurs sont des jeunes d'aujourd'hui, d'une vingtaine d'années, on va dire, et ils parlent comme les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je dis pas que les jeunes parlaient mieux avant, on va dire que...
Vous voulez dire que le rap des années 90 était le langage des années 90,
exactement.
Et le rap d'aujourd'hui est le rap d'aujourd'hui.
Exactement.
Avec le langage d'aujourd'hui.
Avec
pardon.
Le langage d'aujourd'hui, avec les expressions d'aujourd'hui, et avec surtout les réseaux sociaux, tout ce qui a évolué, etc., on le retrouve dans le rap. Et juste pour répondre à votre question, pourquoi aujourd'hui c'est devenu la musique numéro un ? Parce que je pense que c'est la musique qui parle tout simplement le plus aux jeunes et dans laquelle ils se retrouvent le plus. Et dans la musique, et dans les tempos, et dans peut-être les looks. Peut-être que c'est aussi, ils ont envie d'être comme les rappeurs, les jeunes. Ou tout simplement, ça leur permet, ça les fait les évader plus peut-être que d'autres musiques. Plus que de la variété, plus que du rock, plus que de la pop. Je pense tout simplement que ça leur parle aux jeunes. Et que du coup... ils écoutent, les parents se mettent à écouter, c'est une autre génération aussi de parents, et tout ça a fait que les médias peuvent plus ignorer, et puis qu'on le diffuse de plus en plus, mais je pense tout simplement que ça parle aux jeunes.
Héloïse Bouton, vous parliez tout à l'heure, votre intérêt était venu aussi de l'engagement de certaines rappeuses. Valérie Atlan parlait aussi des textes des années 90, on avait l'impression que c'était un rap qui était quand même... qui avait une conscience politique pour une partie d'entre elles, pas pour tous, mais un peu d'engagement. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui a disparu du rap ?
Non, je pense pas du tout. Et puis je pense surtout que déjà, si il y a 20 ans, dans les années fin 90, 98, je pense que ce qui marchait aussi, c'était du rap plus commercial ou du rap plus léger, avec sans forcément un message. Enfin, par exemple, la tribu de Dana, de Mano ou Bye Bye de Ménélique, il y a 20 ans, ça a vendu, ça a été disque d'or, disque de platine, sachant qu'en plus les nombres de ventes à l'époque étaient beaucoup plus élevés pour atteindre ces certifications-là qu'aujourd'hui, alors que les messages n'étaient pas du tout. Après, NTM aussi a été disque d'or ou 113. Ou la Funky Family, mais en tout cas, je veux dire, il y avait aussi ce rap déjà un peu plus populaire, enfin plus proche de la chanson populaire. Donc je pense qu'il y a...
Aujourd'hui, on a un rap engagé qui existe encore ?
Bien sûr, mais pour moi, le problème, c'est que ces rappeurs engagés, comme ils ne sont pas forcément relayés dans les circuits traditionnels, ils n'ont pas la même visibilité que les autres, donc on a l'impression qu'ils n'existent pas. Mais bien sûr, sur le circuit indépendant, ces rappeurs et ces rappeuses existent et continuent de produire des discours engagés. Mais c'est aussi l'injonction qu'on fait souvent au rap, c'est que ça doit être engagé. Mais en fait, les rappeurs et les rappeuses ont le droit de faire du rap juste pour danser, ont le droit de faire du rap sans message, ont le droit de faire du rap conscient, même si j'aime pas trop l'appellation, ou de la trap. Enfin, on doit faire ce qu'ils veulent. Et quand ça concerne d'autres musiques, on va pas attendre la même chose. Dire le rock est plus engagé depuis je sais pas combien d'années et personne trouve ça scandaleux, quoi. Tout le monde trouve ça normal parce que la société évolue, la musique devient un produit commercial comme plein d'autres choses.
Et les rockers vieillissent.
Et les rockers vieillissent, ouais, mais il y a de la relève aussi quand même, faut pas exagérer.
Ouais.
En rap engagé, on a Medine, on a Kerry James, on a Kenny Arcana, on en a encore pas mal, on a Youssoupha dans certains morceaux. Enfin, il y a, je sais pas ce que t'en penses, mais il en reste.
Il en reste, il y a Kazé, La Rumeur. Il y en a toujours. Après, c'est aussi une question de vague et de mode. Une époque, ce qu'on peut appeler le rap engagé, c'était le rap qui tournait le plus. Ensuite, ça a été plus des ambiances festives, etc. Après, peut-être que ça va revenir au goût du jour. Ça vraiment, on peut pas vraiment le prédire. Après, le truc pour la comparaison avec le rock, en fait, je trouve que là où ça se rejoint, c'est que maintenant, dans le rap français, parce que pour le coup, vu le décalage aux États-Unis, c'était déjà le cas depuis pas mal d'années, mais dans le rap français, maintenant, il y a pratiquement autant de branches que dans le rock.
Ah ben, vous faites la transition que je voulais, voilà. Okay. Vous faites la très bonne transition. C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une appellation. Quand, par exemple, cet hiver, il y a eu la remise des Victoires de la Musique, Orelsan qui est reparti avec ses 3 Victoires de la Musique, et avec une classification, une catégorie qui s'appelle musique urbaine, au pluriel, à croire que les autres sont des musiques rurales, hein, si on oppose quand même. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, musique urbaine, au pluriel, et qu'est-ce qui, en fait, derrière même cette appellation générique de rap, qu'est-ce qu'il y a réellement, qu'est-ce qu'il y a derrière, Yérim?
Derrière l'appellation musique urbaine, je pense qu'il y a juste une honte de dire le mot rap. Tout bêtement, c'est comme quand on parle, je crois qu'on doit être le seul pays à parler de cinéma de genre parce qu'on a honte de dire science-fiction ou fantastique. Donc non, ça, je pense que c'est juste un usage de langage qui est un peu bidon. Après,
quels sont aujourd'hui les principaux courants qu'on peut retrouver derrière l'appellation rap? Marche aujourd'hui notamment.
Ouais, il y a ce que les gens appellent le cloud rap, c'est un peu à la PNL, c'est tout ce qui est planant. Il y a la trap, pour un néophyte, on va dire, c'est peut-être un peu plus agressif à l'oreille, parce que c'est vraiment beaucoup de gimmicks. C'est-à-dire, en fait, c'est des mots répétés, des instrus un peu plus punch que d'autres. Et après, il y en a vraiment plein, même sans appellation. Je veux dire, par exemple, ce que fait Nekfeu, il y a pas vraiment de nom spécialement. C'est juste un rap qui est à la fois un peu technique et puis très accessible, très accessible même un public qui n'écouterait pas spécialement de rap à la base. Tu peux avoir du rap jazzy, tu peux avoir du rap plutôt d'ambiance, tu peux avoir l'afro-trap aussi qui a débarqué un peu récemment, où c'est vraiment le but, c'est de faire danser les gens et ils s'en cachent pas. Donc vraiment,
je vous propose, il y a des mots et puis il y a aussi justement, on va essayer de l'écouter.
Faut qu'on revoie les bases, parce que vous êtes trop cons.
Ça galère, je monte dans mon bolide, je balance du son à fond, je roule dans la ville entière. Oh, Jésus de Nazareth, tous les jours je fume, je me dis demain j'arrête. Ne te fie pas à mon gabarit, je viens du 9-1, je sais me bagarrer.
Ils ont allumé le projecteur, tout est noir par ici. J'ai de la pure de Bogota, je monte sur Gotham City. Tout est noir par ici.
Tout est noir dans tout ce qui est. S'il y a bien une chose que je sais faire, c'est niquer les mères. Gosse d'herbe et un dompère pour calmer les nerfs. Je crois pas que ton boule fera l'affaire, ta bouche peut le faire. Jambes en l'air en volontaire.
Waouh, je t'aime. Waouh, à la folie. Waouh, passionnément. Waouh, à l'ammoniaque.
Bébé, tu veux un baisement, branle-moi. Je rêve d'une muffin qui me file des muffins, mais je me fie qu'à moi-même, car ma vie est un muffin. Je me méfie et je m'effuie. Hey, tu connais, le matin je suis sous pollen, le soir je suis sous pollen. Est-ce tout l'entourage 95 gang? Plein de groupes, plein de stars, nouveau time bomb.
Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
C'était un medley du rap d'aujourd'hui sélectionné par Gaëtan Lévy, beaucoup plus jeune que moi. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Et mixé par Stéphane Ronxin. Vous avez pu entendre successivement Orelsan, Nixa, Booba, Damso, PNL, Nekfeu et à nouveau Orelsan. On voit avec des textes parfois qui peuvent être un peu crus. Il faut le dire, appelons les choses. Est-ce que c'est pas aussi l'évolution des textes aujourd'hui qui est assez flagrante, Valérie Atlan?
C'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, effectivement, l'évolution, je pense qu'elle suit aussi le langage d'aujourd'hui. Vous entendez des jeunes parler dans une cour de collège ou de lycée. Je vous assure que c'est pas la même qu'il y a 20 ans. Au niveau quand même de, je vais pas dire l'agressivité, mais il y a certains propos quand même très très crus, certaines expressions très très crues. Et du coup, elles se retrouvent effectivement dans les raps, elles se retrouvent dans le rap. Et vous parliez tout à l'heure aussi de l'afro-trap. Ça se rejoint, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, non seulement il y a les textes qui ont changé, mais il y a aussi les instrus, les musiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rappeurs français vont puiser parfois dans leurs origines, donc les origines africaines, font que parfois on mêle aussi la musique africaine, tout comme les Américains. À l'époque, mêlée, prenait sampler de la soul, etc. Aujourd'hui, on n'hésite pas, on sample pas, mais on rejoue de la musique africaine. Et je trouve que ça se retrouve énormément. Donc voilà, ça va être parfois de la musique africaine, parfois de la musique orientale. On va le retrouver dans les musiques de rap, ce qui n'existait pas du tout avant. Finalement, on se rend compte que c'est comme les Américains, on puise dans les origines. Pour les textes, c'est la même chose. C'est plus cru, parce que les jeunes d'aujourd'hui, je pense, sont plus crus dans leur langage et dans leur façon de s'exprimer.
Yérim, la musique a évolué aussi par rapport justement aux années 90, où je le disais tout à l'heure, on allait beaucoup chercher dans la soul, dans le funk. Aujourd'hui, c'est quoi les références musicales ?
Aujourd'hui, c'est pratiquement sans limite. C'est-à-dire que tu peux avoir des trucs composés, donc sans sample, très électronique, etc. Il y aura toujours des gens qui sampleront malgré tout, et eux, pour le coup, il y a peut-être beaucoup moins de complexes qu'à une autre époque. C'est-à-dire que quand il y a un artiste comme Jul qui reprend, concrètement, il reprend Barbie Girl sur un morceau entier. Ouais, ça, dans les années 90, même quelqu'un qui aurait voulu le faire se serait dit, non, je peux pas parce que je vais m'afficher ou on va se foutre de ma gueule, etc. Donc ça existe plus aujourd'hui. Et donc, ouais, je vois beaucoup moins de limites, et c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être pas encore aussi vaste que tous les courants qui ont découlé du rock. Mais par exemple, quelqu'un qui serait uniquement fan de trap pourrait même considérer que du rap planant, par exemple, c'est une autre musique. Parce qu'en fait, il y a autant de différences qu'il peut y en avoir entre, du métal et du pop rock.
D'accord.
Même s'il y a toujours un tronc commun, bien sûr.
C'est peut-être plus parlant pour certains.
Beach in the house, yeah. Oak Town, Oakland definitely in the house. Frisco, yeah. Frisco. And you know LA up in this. Pasadena, where you at? Yeah, Inglewood, Inglewood always up to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, Sacramento, where you at?
Un classique du rap, Tupac, California Love, déjà 24 ans pour ce titre qui n'a pas pris une ride, hein, que le magazine Rolling Stone avait classé au 355e rang parmi des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Un titre choisi par Elsa Béranger qui est en charge de la programmation musicale de l'émission. Celle-ci est réalisée par Stéphane Ronxin, assisté de Anne-Laure Cochet et Nasser Moussaoui, et elle a été préparée par Nathan Gallo, Fanny Cohen-Moreau et Gaëtan Lévy. Héloïse, vous vouliez tout à l'heure réagir, Héloïse Bouton, vous vouliez réagir à ce qu'on disait sur cette évolution et notamment des textes et de la musique.
Oui, je voulais juste réagir notamment au petit medley que vous nous avez diffusé. Je trouve ça regrettable qu'il n'y ait aucune femme dedans parce qu'il y a aussi des femmes, on a l'impression qu'elles ne sont pas aussi visibles ou qu'elles ne vendent pas autant, mais il y a quand même eu 3 femmes en France disques d'or. Kenny Arcana, Diams et Shai. Il y a aussi des rappeuses comme Chilla ou Sienna aujourd'hui, enfin voilà, qui émergent et qui sont un peu plus grand public. Donc je voulais juste dire ça parce que je
bonne
trouve
remarque
que...
et on va la
voilà,
on
la
va la transmettre à l'intéressé qui nous a fait sa sélection.
Non mais il faut pas qu'il se fasse gronder non plus, hein, mais voilà, c'est juste que la diversité du rap, ça passe aussi par parler des femmes, parler des LGBT, parler des riches, des pauvres, enfin parler de tout le monde.
Alors justement, vous faites une bonne transition puisqu'on voit qu'il y a quand même aujourd'hui, et c'est souvent remis en cause d'ailleurs, on a quelques mails d'auditeurs qui dénoncent aujourd'hui les textes des rappeurs en disant soit le fond, soit la forme est nulle. Eh bien nous avons au téléphone Clémence Brenon, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes doctorante en linguistique à Paris 4 et vous êtes penchée sur les auteurs, justement, sur les textes de rap. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a un côté, d'abord, est-ce qu'il y a une richesse dans ces textes, dans ce que vous avez pu analyser?
Évidemment, une immense richesse. Je crois que maintenant, quand on parle du rap, on peut parler de la poésie du 21e siècle. On retrouve en fait certaines techniques inscrites dans l'histoire au niveau de la poésie et je pense qu'il y a un véritable retour aux origines de la poésie orale, donc évidemment que ce sont des textes super riches.
Et quand on a un côté très trash dans le texte, on parle même d'ailleurs de shit-talking, hein, le parler sale, est-ce que c'est pas d'ailleurs un des ressorts du succès du rap, notamment chez les ados?
Un ressort du succès du rap, je ne sais pas si les ados écoutent plus ou moins plus de rap parce que la musique est vulgaire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le rap, au niveau de la vulgarité notamment, souffre de certains clichés. Par exemple, en travaillant sur ma thèse, j'ai entendu que le rap était un texte, des textes pauvres, tant au niveau du sens que de la forme, de l'utilisation des mots. Et ça, je trouve que c'est regrettable.
Et quand on parle des femmes, Héloïse Bouton, vous qui avez un site dédié presque aux femmes dans le hip-hop, donc qui s'appelle Madame Rap, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure du MeToo, justement, les textes sur les femmes aujourd'hui sont pas régulièrement pointés du doigt?
Bah les textes, le sexisme dans le rap a toujours été quelque chose qui a été pointé du doigt. Moi, le problème que j'ai avec ce discours-là, c'est que si on fait le procès du rap comme étant sexiste, il faut faire le procès de toutes les musiques et de toute la société. Puisque le rock est sexiste, la variété est sexiste, Julien Clerc, Michel Sardou, on a été élevés avec ça. Simplement, on nous a dit que ça, c'était pas sexiste.
Non, pas Julien Clerc, quand il nous chante « Femme, je vous aime ».
Ah bah c'est vrai
sexiste.
Que Mélissa, c'est hyper sympa. C'est ni sexiste, ni raciste. C'est hyper cool. Non, bah voilà, on nous a appris que ça, c'était ok en fait. Sauf que quand c'est Booba, Caris, PNL ou Damso qui va avoir un discours sexiste, on va trouver ça beaucoup plus choquant. Alors qu'en fait, c'est le même sexisme, c'est juste un reflet de notre société qui est globalement sexiste, malheureusement. Et donc, comme le rap est vraiment un reflet de son époque et raconte, c'est du storytelling de notre société, oui, le rap est aussi sexiste. Mais ni plus ni moins que n'importe quel autre courant musical ou que n'importe quelle autre culture à mes yeux. Moi, c'est pour ça que j'ai un problème avec ce... Pour moi, c'est vraiment une des caricatures qu'on fait du rap et ça s'inscrit toujours dans cette espèce de lecture raciste, classiste, où on va dire, regardez, ce sont eux les responsables et nous, pendant ce temps-là, on n'a rien à se reprocher. Nous, on est parfaits à ce niveau-là.
Valérie Atlan, est-ce que vous avez l'impression, on parlait des changements, de l'évolution de cette scène rap, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le rapport aux femmes a évolué dans les textes notamment? Et après, on parlera aussi peut-être justement des artistes femmes dans le rap.
Le rapport aux femmes a évolué dans les textes de rap, vous voulez dire ?
Oui, notamment. Oui.
Comment les femmes sont évoquées dans les textes de rap ?
Tout à fait.
Alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Moi qui m'a jamais, pour le coup, en tout cas pour ma part, gênée, on va dire, parce qu'il y a des très beaux textes. Enfin, après voilà, c'est toujours pareil, on parle toujours des textes où il y a des insultes, mais jamais des Mamalova, d'Oxmo ou de plein de textes où les femmes sont mises à l'honneur. Après, c'est vrai que les médias les connaissent pas forcément. Moi, ça m'a vraiment jamais gênée parce que c'est souvent du second degré. On va dire que c'est du second degré. Après, oui, parfois, effectivement, il y a quelques mots qui peuvent choquer, mais effectivement, comme ils peuvent choquer dans tout autre type de musique, Renaud avait des textes très crus aussi à l'époque, avec de l'argot, etc. Non, moi, ça ne me choque pas et je ne trouve pas que ça a évolué plus que ça ou que la façon dont les femmes sont traitées dans les textes de rap aujourd'hui est différente d'avant. Voilà, il y a toujours eu des petits clichés, que ce soit aux États-Unis ou en France. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a eu des fois des polémiques, etc. Mais en tout cas, moi, ça ne me choque pas et je ne trouve pas que ça a évolué. Et c'est souvent du second degré, voilà. Il y a des très beaux textes aussi, il y a des très belles, il y a des très belles choses sur les femmes et sur les mères. Et puis il y a les femmes aussi, comme Héloïse le disait, il y a les femmes rappeuses aussi qui ont des textes. Donc, en tout cas, on va dire que ça fait 30 ans que je côtoie, c'est que je travaille dans cet univers-là, que c'est vraiment ma vie le rap. Je n'ai jamais senti une once de haine, de manque de respect, voilà, avec les rappeurs avec qui je travaille ou les gens. J'ai jamais senti ça, alors qu'il me semble que dans d'autres univers, ça s'est plus ressenti. Moi, j'ai jamais ressenti d'irrespect vraiment, en tout cas face à moi, dans ce milieu-là.
Yérim Sarr, c'est du second degré pour vous aussi quand ces textes peuvent être très crus?
Ça dépend en fait. Il y a des rappeurs qui s'amusent souvent un petit peu à faire des rimes de gamins quand ils évoquent leur rapport aux femmes, parce que ça fait partie un peu de l'ego trip. Donc en gros, on est le plus fort, donc on a toutes les meufs, donc et en même temps on n'a pas de sentiments. Donc voilà, donc oui, il y a ce côté-là. Après, c'est vrai que c'est quand même, je pense qu'il faut différencier quelqu'un qui va dire et penser très sérieusement que les femmes sont inférieures aux hommes ou je ne sais quoi, et quelqu'un qui en fait fait juste des blagues de cul à répétition sur tout un morceau parce que ça le fait rire et parce que en fait il estime que c'est pas méchant, même si en fait vu qu'il a un point de vue d'homme, donc peut-être que c'est une erreur, mais oui, il y a ce truc là. Après je rejoins ce qu'Héloïse a dit, c'est-à-dire que On fait ce procès-là au rap en particulier parce que je pense que on refuse la distance en fait aux artistes dans le rap. C'est-à-dire que là où je connais un vieux groupe qui s'appelait Au Bonheur des Dames, je crois, qui a fait une chanson qui s'appelle Pauvre Laura. En fait, c'est une chanson sur un viol collectif et c'est une chanson humoristique. D'ailleurs, en fait, c'est de mauvais goût, mais c'est assez drôle. Mais si un rappeur faisait la même chose, ce serait inimaginable, les réactions, si jamais ça tombait entre de mauvaises oreilles, on va dire.
Donc, ça peut être en tout cas de très mauvais goût. Héloïse Bouton.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'on n'accorde pas aux rappeurs et aux rappeuses le droit d'être narrateur et non auteur. C'est-à-dire que là où dans la littérature ou la chanson populaire française, on va reconnaître la distance entre l'auteur et le narrateur, le rappeur, il est tout le temps premier degré. Et c'est aussi un moyen de ne pas reconnaître qu'il fait de l'art et de la littérature, je trouve.
Alors Clémence Bremond, justement, qu'on vous a toujours en ligne. Donc vous qui vous êtes penchée sur la linguistique, est-ce que vous avez l'impression justement qu'il n'y a pas ce décalage qui est fait entre l'auteur et le narrateur dans les textes, enfin dans la perception des textes?
C'est compliqué à distinguer les deux, auteur et narrateur, parce que déjà tout le monde ne fait pas cette distinction. Après, quand on écoute les rappeurs et surtout quand on écoute leurs interviews et quand on leur pose des questions sur leur façon d'écrire, ils disent clairement que, je vais dire, ils jouent un rôle, entre guillemets, dans leur texte. Donc il faut vraiment distancier l'auteur, la personne qui écrit, et le narrateur qui est d'une certaine façon une mise en scène dans les morceaux.
Et l'emploi de mots qui peuvent être très très crus, pour vous, c'est quelque chose qui caractérise aussi cette culture ?
Ça caractérise la culture. Maintenant, je me suis penchée justement sur cette question des mots crus et de ce qu'on appelle des vulgarismes. Quand on en parle aux personnes, aux différentes tranches d'âge et aux différentes classes sociales, finalement, le fait d'employer des mots trash, eh ben, ça reste dans la tête et ça marque. Et donc, du coup, forcément, ça fait réfléchir. Donc...
Et est-ce que, maintenant c'est une question un peu générale que je posais, c'est on voit parallèlement aussi, ou peut-être paradoxalement, qu'il y a en fait énormément de femmes et de jeunes filles qui sont aujourd'hui dans les salles de concerts, qui sont pour aller voir des artistes qu'on dénonce comme machistes ou sexistes, Valérie Atlan.
Complètement, il y a énormément de femmes dans les concerts de rap. Pour le coup, il y en a toujours eu et il y en a énormément. C'est bien la preuve que ça ne choque pas. Au contraire, je vais pas dire que ça fédère, mais oui, il y a énormément de femmes. Le public féminin a toujours été là. Ça, c'est un gros cliché que souvent, et moi-même, j'ai connu le problème parfois à mes débuts dans l'organisation de spectacles. Les salles ne voulaient pas louer à des concerts de rap, pensant qu'il y aurait un public alors uniquement masculin, uniquement de racaille, uniquement de banlieue, qu'il y aurait des problèmes dans les concerts, des bagarres, etc. Je n'en ai jamais connu. Il y a eu très, très, très rarement des problèmes dans des concerts de rap, vraiment très exceptionnels. Donc oui, bien sûr qu'il y a des femmes et bien sûr que c'est une musique où on a envie de se dépenser, on a envie d'écouter, etc. Donc, par exemple, sur l'âge d'or du rap français, on avait réussi à réunir un public extrêmement varié. Ça allait de 10 à 77 ans. Ce qui était fantastique, c'est qu'il y avait des parents qui venaient avec leurs enfants. Et ça, c'était magnifique à voir. Des ados, des parents, des mères de famille. Je tiens à dire aussi que la plupart des rappeurs sont de très très bons parents parce que encore une fois, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est différent. Dans la vie de tous les jours, c'est des parents, c'est des maris, ils ont des femmes, ils ont etc. Donc voilà, il faut vraiment faire la différence et arrêter de penser que le rap, parce qu'on va encore nous dire qu'il y a eu un malheureux événement dans un aéroport, c'est une musique qui n'engendre que de la violence et que dans les lieux où on se rassemble pour du rap, c'est de la violence. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ce qui s'est passé, ça se retransmet pas dans les salles.
Alors toujours autour des femmes, quand on parle de femmes et de rap et de rappeuses en France, on sort, je dirais presque généralement un nom, un seul, Diams, et puis comme s'il n'y avait rien eu avant, comme s'il n'y avait rien eu après, Héloïse Mouton.
Ben c'est faux, il y a eu avant et il y a après. Je pense que c'est le problème malheureusement qui concerne toutes les femmes dans beaucoup de domaines, c'est qu'elles ont été longtemps invisibilisées. C'est pareil dans le cinéma, dans la littérature. Enfin, c'est pas encore une fois propre au rap. Et après, c'est aussi cette.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de nouvelles Diams aujourd'hui?
Ben parce que chaque artiste est unique et heureusement il n'y a pas d'autres Diams.
En tout cas, il y aurait un succès comme Diams. Il n'y a pas de femme qui a le succès de Diams.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Moi en tout cas, les rappeuses que je rencontre, les retours qu'elles peuvent faire, c'est que les grosses majors ont tendance à sont frileuses de miser sur des femmes aujourd'hui, ont toujours envie de les formater pour qu'elles correspondent à des archétypes, c'est-à-dire en gros soit la Kaira, soit la putain. C'est un peu ça la binarité à laquelle elles sont confrontées et elles quand sont déjà des artistes qui ont une image qui est absolument sincère et qu'elles ont déjà travaillé là-dessus, elles n'ont pas du tout envie de se conformer, il y a ça. Et je pense qu'il y a la peur aussi de la part de grosses majors, en tout cas, qu'il n'y ait pas de public derrière, ils ne savent pas marketer ces artistes-là, comme si parce que c'était des femmes, il fallait qu'elles correspondent à plein plein de clichés, alors qu'en fait, c'est avant tout des artistes de rap avant d'être des femmes.
Yérim Sarr, c'est l'absence de rappeuses qui soient suffisamment fortes sur la scène rap.
En fait, là, pour le coup, c'est un truc qui dépasse un peu le fait que, enfin, en gros, s'il n'y a pas de nouvelle Diams, c'est pas uniquement une question d'homme-femme. C'est-à-dire que Diams, elle avait ses spécificités. Donc oui, il y avait certes le fait que ce soit une femme, mais il y avait aussi son image qui faisait que, elle parlait beaucoup aux très jeunes qui pouvaient se sentir représentés, d'ailleurs, que ce soit des garçons ou des filles. Faut préciser d'ailleurs que Diams, en réalité, elle a fait plus que disque d'or ou de platine. Elle était disque de diamant parce qu'elle a atteint le million ou approchant, ouais, c'est ça. À une période où il y avait le téléchargement illégal, donc c'était vraiment une prouesse complètement dingue. Si on n'a pas actuellement, je sais pas, mais en même temps, ce serait comme se demander ouais pourquoi il y a 15 ans, il n'y avait pas un Orelsan ou quoi. C'est-à-dire après, peut-être que demain, il y aura une nouvelle Diams en termes de popularité, je veux dire. Peut-être pas, mais c'est pour plein de raisons. Après, je sais qu'il y a un truc, par contre, c'est qu'en France, il y a une grosse différence et un gros retard à ce niveau-là par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que, mais je pense que c'est vraiment culturel. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les rappeuses peuvent vraiment jouer sur l'image sexy sans être elles-mêmes vues de manière très négative, en fait.
Même s'il y aura toujours dans le rapport entre auteur et narrateur.
Ouais, en fait, voilà.
Il est québécois, il rappe en franglais, il s'appelle Loud et il pourrait parler des nouvelles stars du rap avec Nouveau Riche.
Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. Je portais que du 10, maintenant je porte que du 9. L'idée d'un génie, leader d'une génération. Qui marche avec les chiens, qui danse avec les avions. Je crée des rapports, j'ai déduit de mes impôts. C'est pas demain la veille qu'on va se réveiller pour. Tu peux me payer content, tu peux me payer plus. Mais si tu payes pas, tu vas payer pour. We don't play like this, j'ai rien à faire, that I gotta go. J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago. Aujourd'hui je me sens seul au monde dans ma catégorie. Les nouveaux riches dans les cartes pour. You know how it goes. On a pris le boulot par les corps. Tu crois pas qu'on est les côtes, on s'en bat les corps. Rêveur américain, but never make it rain. Si je voulais lancer mon argent par les fenêtres, je restais à l'école. Allez, life that I deserve. 200 000 à l'heure dans les arbres à la mer azur. Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. Les nouveaux riches seront toujours riches. You know how this works, allez, life. Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. On fait que des demandes, on reçoit que des œuvres. Fini la charité, now we taking dollars. Faudrait me payer cher pour faire du bénévolat. Dois rien à personne, on reste à l'écart. J'évite les regards et les caméras. J'fais confiance à personne avec l'âge. J'mange mon seul ami, so je l'appelle Doc. What up, Doc? A little life that I deserve. Même les deux pieds dans la neige, Hawaiian shirt. Juste pour le rappeler, c'est qui le padre du rapture? Parle à ma main, parle à mon manager. You know I'm a jerk. Ils essaient de copier le phénomène. Ils ont mieux travaillé les fins de semaine. Le rappeur préféré de tous tes rappeurs préférés, a.k.a. le choix des professionnels, c'est rien de personnel. Vers de nouveaux sommets, ils ont marché sur la lune, on va marcher sur le soleil. Ils ont marché sur la lune, on va marcher sur le soleil. Pis s'il fait trop chaud, on va y aller la nuit. Now get this money, little life that I deserve. 200 000 à l'heure dans les arbres à la mer azur. Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. Les nouveaux riches seront toujours riches. You know how this works, a little life. A little life.
Le débat de midi, Didier Siamour.
Et dernière partie de notre débat consacré au rap avec une question à adresser à chacun de nos invités, la même. Vous avez quelques secondes pour y répondre. On va commencer par Clémence Brémond qu'on a en ligne. Est-ce que cette musique, selon vous, le rap est aujourd'hui le nouveau standard, la nouvelle forme de variété?
Le nouveau standard, la nouvelle forme de variété, je ne sais pas si on peut dire ça parce qu'il y a plusieurs variétés finalement. Et puis qu'est-ce que la variété? Mais je pense pouvoir dire que, comme j'ai dit précédemment, c'est la nouvelle forme de poésie et c'est la poésie du XXIe siècle.
Valérie Atlan, pour vous?
Pour moi, oui, complètement. Après, voilà, c'est pareil, hein, ce qu'on va l'appeler variété. Mais en tout cas, oui, il est certain que c'est aujourd'hui vraiment la musique, pour moi, qui rassemble le plus, qui fédère le plus, qui a le plus de courant. Donc oui, ça serait la nouvelle variété, assurément.
Pour vous, Héloïse Bouton?
Alors moi j'ai un problème comme Clémence avec le terme variété, donc je dirais plutôt que c'est la musique, c'est une musique clairement populaire qui est très inclusive, très diversifiée et qu'elle touche tout le monde, qu'elle parle à tout le monde et de tout le monde.
Est-ce que c'est pas justement la définition de la variété,
de parler? Pour moi, dans variété, il y a une connotation de c'est produit par la culture dominante, alors que pour moi le rap ne sera jamais une musique de dominant, jamais. Ouais.
Et pour vous, Yérim, ça?
Si je prends variété dans le sens musique la plus populaire en France, oui, parce qu'ils font jeu égal avec les scores de la variété. Après, je pense que à la limite, pour être vraiment la variété, il manque un truc au rap, c'est qu'il n'y a pas de rappeur impliqué dans des viols ou des fraudes fiscales. Mais à part ça, je pense que c'est bon.
D'accord.
On y est.
Allez, dernier petit tour de table pour nous dire c'est quoi votre coup de cœur en ce moment, ce que vous conseilleriez aux auditeurs d'écouter. Yérim, vous aviez la parole.
Kekra, j'aime beaucoup. C'est un rappeur qui a la particularité de rapper masqué et qui a pas mal d'influences, parfois plus britanniques qu'américaines. Donc c'est, ça donne un mélange qui est assez original, je trouve.
Héloïse Mouton.
Ouais, il y a Billy Brolock, une rappeuse de Nanterre qui vient de sortir un EP il y a pas longtemps que je trouve super et que je, c'est une rappeuse que je suis depuis longtemps, donc je vous incite à la découvrir.
Valérie Atlan. C'est dur hein, de faire des choix. Hein. Ben oui, choisir c'est renoncer et en même temps, ben, il faut faire un choix.
Franchement, c'est très dur. Après, donc, en tout cas, moi j'aime beaucoup Fianso, j'aime beaucoup Sofiane. Je trouve qu'il a réussi à, même s'il est là depuis longtemps, ce qu'il fait aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Il a la pêche, etc. Il sort un nouveau projet aujourd'hui. J'aime beaucoup aussi Sheila, la rappeuse que Kilomètre produit. Et puis il y a plein de nouveaux artistes qui arrivent, comme Maes, comme Le M, comme Toba.
Heureusement que je vous avais dit un titre. Hein.
Ouais, mais c'est impossible à choisir. En tout cas, toute la nouvelle génération, je conseille d'écouter.
Clémence Brenon, vous avez oui. Un artiste en ce moment coup de cœur ou une artiste coup de cœur?
Et ben moi en ce moment j'adore Dean Burbigo, je trouve qu'on parle pas assez de lui et j'adore sa façon d'écrire, donc c'est ce que je conseillerais.
Eh bien écoutez, on aura fait la playlist des auditeurs peut-être pour finir les vacances. Merci à nos invités, donc Valérie Atlan, productrice de rap, organisatrice de la tournée L'âge d'or du rap français. Il n'y aura pas de volume 2?
Non, il y a eu la tournée Secteur A aussi cette année, un peu dans la même idée que L'âge d'or, mais on prépare encore de grosses tournées. Et si les auditeurs veulent me retrouver sur les réseaux, c'est ValouGold, Valou_Gold.
Héloïse Bouton, on peut vous retrouver avec madamerap.com, un site dédié aux femmes dans le hip-hop. Et puis Yérim Sarr, on peut vous entendre sur le Move.
Hein,
régulièrement, ou vous lire, ou vous voir sur Vice, sur Première, sur tous les médias auxquels vous collaborez. J'en profite pour remercier Stéphane Ronxin, le réalisateur qui nous a accompagnés pendant ces 3 dernières semaines, qui va faire profiter d'autres émissions de son talent, et puis Aurore Mansip, qui a beaucoup cherché, lu, écouté des sons, visionné d'images pour préparer nos émissions. On se retrouve lundi pour parler de travail, de statut professionnel, en se demandant si avec les micro-entrepreneurs, les indépendants, les professions libérales, on ne se dirige pas vers un affaiblissement, voire une disparition du salariat, et avec quelles conséquences pour notre société. Vous pouvez témoigner, réagir en allant sur la page de l'émission sur franceinter.fr.